Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous continuons avec ce grand sujet d'un peuple de Dieu qui est un peuple à la fois sacerdotal, prophétique et royal. Et nous en étions restés la dernière fois à cette idée que l'Église participe à l'une de ses fonctions du Christ, qui est celle de prêtre tout d'abord. Ensuite, on verra celle de prophète et celle de roi. Mais comment l'Église peut-elle être prêtre à la suite du Christ ?
Alors, l'Église est prêtre à la suite du Christ parce qu'elle s'offre elle-même comme le Christ s'est offert. Et c'est la première fonction du prêtre, c'est l'offrande. On le voit bien dans l'expression de Melchisédek que nous évoquions la dernière fois, qui apporte le pain et le vin. Eh bien, Jésus a apporté le pain et le vin pour ce sacrifice qu'il a institué, et il en a fait son corps et son sang, son corps offert pour nous, son sang versé pour nous. Il s'agit bien de mots qui évoquent l'expiation. Et ce n'est pas un sacrifice quelconque, c'est un sacrifice qui rassemble tous les sacrifices. Ce qui fait que nos sacrifices nous-mêmes, bien sûr, ne seront jamais à la hauteur du sacrifice du Christ, mais nous pouvons en prendre notre part, c'est-à-dire faire ainsi que le disait saint Paul. J'avais commencé à citer d'une manière un petit peu rapide l'Épître aux Romains au chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » Donc il y a bien un culte spirituel que les fidèles de l'époque de saint Paul sont appelés à rendre du temps même, voyez, les premiers temps qui ont suivi l'effusion du Saint-Esprit. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Voilà donc le meilleur moyen, dans le fond, de faire qu'un chrétien soit associé au sacrifice du Christ, eh bien, c'est de s'offrir sur ce modèle que le Christ a tout pris sa vie et en a fait une offrande. Oui.
Dans l'Ancien Testament, les Hébreux offraient des animaux, des agneaux ou des bœufs en offrande à Dieu pour obtenir de lui, j'imagine, des grâces ou des bénédictions. Donc Jésus, lui, dit il ne faut plus offrir ce genre de choses, mais je viens m'offrir moi-même comme un parfait sacrifice. Mais est-ce que nous, à quoi ça sert d'offrir le sacrifice de nous-mêmes à Dieu ? Est-ce que c'est pareil ? C'est pour obtenir des bénédictions ?
Alors, oui, c'est-à-dire que nous restons dans la complaisance de Dieu, c'est-à-dire tout est mis entre les mains de Dieu, nous ne pouvons pas imposer à Dieu quoi que ce soit, mais c'est Dieu lui-même qui nous a inspiré cette œuvre sacrificielle. Et de nombreux passages de saint Paul ou dans l'Apocalypse ou dans des passages de saint Jean nous montrent que ce sacrifice propitiation du Christ, eh bien, nous pouvons y apporter comme notre contribution. Prenons un exemple de Colossiens. Dans Colossiens chapitre 3, nous avons ce passage où très vite il est reconnu aux chrétiens la possibilité de se compléter dans leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Eh bien, si le sacrifice n'est pas un sacrifice purement verbal, mais un sacrifice dans lequel on paye de sa personne, on comprend très bien que la souffrance peut être, par excellence, le lieu d'offrande de soi. Vous voyez, quand saint Paul le dit avec beaucoup de, d'esprit surnaturel, lorsque il nous invite à faire de cette espérance que, qui a été plantée dans sa vie, eh bien, il vous donne la possibilité de dépasser cette situation. Je complète en ma chair, je suis au verset 24 du chapitre 1, je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Saint Paul a pris conscience qu'il participait à la souffrance du Christ, au sacrifice du Christ, et il nous montre sa vie comme un modèle. Imitez-moi, mon modèle à moi, c'est le Christ, dit-il sans fin. Donc on comprend très bien comment on est passé d'une identification des grands apôtres à Jésus, puis petit à petit du peuple de Dieu à, par le biais de l'imitation aux apôtres, à l'imitation à Jésus lui-même. Et c'est ainsi que s'est mise en place petit à petit cette grande compréhension du sacrifice. Nous sommes un peuple qui sommes en possibilité de nous offrir par nos actions, mais en particulier par nos passions, c'est-à-dire au moment où nous pâtissons. Hein, et notre souffrance est un pâtir. Et de ce point de vue-là, nous pouvons offrir donc toutes nos souffrances.
Et quand le baptisé va à la messe, est-ce qu'il met en œuvre son sacerdoce baptismal? Est-ce qu'il vient à la messe comme un prêtre aussi qui vient participer à ce que fait le prêtre à l'autel? Ou est-ce que son sacerdoce, il doit l'exercer plutôt à d'autres endroits qu'à la messe?
Alors, je dirais que la vie est unifiée dans l'Esprit Saint. Il ne faut surtout pas opposer le culte à la vie concrète du reste du temps. Mais le moment du culte, c'est un rassemblement où les jointures et les ligaments que nous formons les uns avec les autres s'unifient autour du corps mystique qu'est l'Église. Et au moment de l'offertoire, eh bien, on offre bien sûr sur la patène l'hostie qui est dans la patène pour demander que le Saint-Esprit la transsubstancie de l'état où elle est, c'est-à-dire du pain dans le corps du Christ, et pareil pour le vin dans le sang du Christ. Mais au moment de cet offertoire, il faut surtout inviter le peuple chrétien à ne pas rester passif. C'est pour ça qu'on chante souvent quelque chose assez exhortatif à ce moment-là, pour essayer au maximum de pouvoir nous associer à ce sacrifice. Et c'est là qu'est le moment déterminant donc de ce passage de la vie de tous les jours, où on apporte toutes nos misères, toutes nos plaintes, etc., toutes nos souffrances, tous nos espoirs, et on le met d'une certaine manière sur la patène. Un jour, il m'est arrivé une expérience qui m'a ému. C'était un 11 février, c'était en 1984, et on m'a demandé d'être l'un des grands clercs de la messe de Jean-Paul II. Et donc il fallait partir du fond de Saint-Pierre avec la patène du pape.
Ah oui.
Et j'avais la patène du pape, et je me disais, mais je recueille là tous les gens. Et c'était le 11 février, c'était la fête de Notre-Dame de Lourdes. Il y avait énormément de gens qui étaient venus en fauteuil roulant, qui étaient des malades, et qui, en me passant, j'avais l'impression que je portais toutes leurs souffrances pour aller les mettre dans les mains de Jean-Paul II, qui allait lui-même le porter à l'autel et via le diacre pour l'offrir. J'ai eu une impression très très forte de ce que signifiait à ce moment-là le fait de le sacerdoce de commun, le sacerdoce des fidèles, était exactement à sa bonne place à ce moment-là.
Ah oui, et ces fidèles qui prient à la fois pour leur souffrance, ou qui portent aussi des espoirs, j'imagine aussi, qui beaucoup portent aussi des intentions de ceux qui les entourent. Donc ils ont un rôle de prêtre aussi pour les autres, en quelque sorte. Alors, les autres baptisés, peut-être moins, mais tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui sont loin de la foi, est-ce que le baptisé a une charge par rapport à ceux qui ne croient pas, à ceux qu'il rencontre dans son travail.
Oui, et là, c'est l'aspect prophétique, on peut dire.
Ah oui, oui.
Parce que dans le fond, le prophète, c'est celui qui annonce sans cesse les voies de Dieu, le royaume de Dieu est proche, et le fait de s'approcher du Christ et de son sacerdoce. Dans le fond, le baptisé est prêtre, prophète et roi. Et même dans la société de tous les jours, il apporte cette note à ce règne de Dieu qui n'est pas un domaine, ce n'est pas une royauté au sens d'un domaine qui s'étendrait, comme on l'a cru peut-être un peu naïvement à l'époque du Moyen-Âge. On croyait que le domaine du Christ était délimité d'une manière visible, mais il s'agit plutôt d'un règne, c'est-à-dire d'un état général économique dans lequel Jésus règne et Jésus apporte son salut. Eh bien, dans les réalités temporelles, on peut apporter cette lumière du règne de Dieu. Et c'est ce que le Concile Vatican II a voulu rappeler dans Gaudium et Spes, en disant qu'il ne fallait pas que le chrétien se désintéresse des réalités mondaines, qu'il pouvait innerver dedans des semences christiques par le seul fait même de son baptême.
De son baptême.
Oui,
oui. Oui, très bien. Et puis, Non, bon, il va falloir achever notre émission. On approfondira ça la prochaine fois, le thème du prophète en particulier.
Oui, je dirais à propos quand même, pour finir ce royaume, Saint Augustin a une belle expression en disant « Quel est ce royaume ?» C'est celui dont le roi est la vérité, celui dont la loi est la charité et celui dont le mode est l'éternité. Et il s'exclame avec beaucoup d'élan mystique, « O eterna veritas, ô éternelle vérité, ô vera caritas, ô vraie charité, ô cara eternitas, ô chère éternité ». Et nous pouvons donc demander avoir cette même ferveur pour l'étendue de ce règne.
Amen. Amen.